Aimer, ce n'est qu'un mot. T'aimer, c'est tout un alphabet. Tara de Montpellier.
Salut Daniel, c'est Philippe là. Eh bien, c'est pour lancer un appel à une aide humanitaire d'urgence. Cela fait maintenant plusieurs semaines que des milliers de GI sont stationnés en Irak. Ces malheureux, étant désœuvrés, ont besoin de nous. C'est pourquoi nous vous invitons à leur adresser tous vos seaux, pelles et râteaux en plastique dont vous n'avez plus l'utilité, mais qui leur permettront de jouer dans le sable irakien. Adressez donc vos envois à l'ambassade des USA, 2 avenue Gabriel à Paris 8e. De même, il est conseillé d'apposer une étiquette précisant que ce matériel est inadapté à la recherche ou au puisage de pétrole. Voilà, donc j'espère que l'appel sera bien entendu et répercuté. Salut à tous.
Ce soir, je vous appelle pour vous demander de parler de l'appel pas en notre nom qui a été lancé en Amérique et qui a été repris en France et qui est un appel contre la guerre en Irak et qui a déjà reçu de nombreuses signatures de personnalités des arts et du spectacle. Et je sais que Daniel Mermet l'a signé aussi. Donc je trouve que ce serait bien de discuter. Merci, au revoir. Je voulais dire à Merx, mon amour, je t'aime. Voilà, notre histoire dure depuis 12 ans maintenant. Il y a les 4 enfants et puis les tableaux de notre amour. Oui, tu es l'artiste de mon cœur et j'ai commencé à t'aimer en voyant tes toiles. C'est comme ça. Les tableaux comptent et racontent notre amour, les étapes de notre amour, la guerre, puis l'amour qui triomphe. Je t'aime, mon amour, je t'aime. Voilà, c'était Claire pour Mens, mon amour.
Bonjour Claire, bonjour Daniel. Je tenais à remercier Claire pour les mots qu'elle a saisis auprès de Fatima et ses enfants. Les mots M-O-T-S et M-A-U-X. Je suis ce qu'on appelle une maghrébine, la trentaine, 10 ans vécue en Tunisie et 20 ans en France. Mes références sont plutôt Rousseau et Diderot, Caveroès et Cavicenne, bien que ces deux derniers, philosophes ou sociologues, ont bien influencé la pensée dite occidentale. Mais ça, c'est un autre sujet. Bref, je suis une étrangère, mariée à un Français dit de souche, et je viens d'apprendre qu'on m'accorde la nationalité française. Est-ce pour autant que je suis intégrée? Non, je refuse le mot intégration. Je suis moi, tout simplement. Et comme tout un chacun, je suis faite de culture et d'histoire au pluriel. Mais si le mot être intégré signifie se sentir proche d'individus comme l'enfant Cavana dans son roman L'Irital, ou proche de Jules Supervielle quand il écrit Débarcadère, alors oui, ces mots me parlent. Les déracinés ne sont pas avant tout italiens, français ou tunisiens, ils sont simplement humains. Je serai intégrée, comme on dit, quand les autres m'accepteront tel que je suis, malgré ma couleur de peau et la consonance de mon nom. Alors merci à Claire, qui dans son reportage, écoute et regarde de manière humaine. Naïma.
Allô, j'appelle parce que je sais plus trop où appeler. J'ai eu le salut social là, un instant au téléphone. Avant j'habite Paris, j'ai rencontré un SDF dans le métro, un monsieur de 80 ans avec qui j'ai parlé et qui m'a dit qu'il allait donc passer la nuit dehors et il m'a appris que les centres d'hébergement fermaient à 19h. Pour ceux qui s'étaient pas inscrits dans la journée. Donc, en rentrant, je comprenais pas. En plus, j'avais vu affiché sur un panneau lumineux mairie de Paris, de la mairie de Paris, que l'opération Grand Froid avait été déclenchée. Donc, j'ai appelé le numéro 115 et numéro gratuit pour d'accueil pour les SDF et j'ai patienté 10 minutes au téléphone sur une musique de merde. Alors que c'est un numéro d'urgence. Et au final, j'ai eu quelqu'un sur qui je me suis défoulée parce que je comprenais pas. Et j'ai essayé d'avoir des explications et voilà ce qu'il m'a dit. Que sur l'Île-de-France, 500 SDF allaient dormir ce soir dans la rue. Qu'en France, il y en aurait 20 000. Et que les centres d'hébergement fermaient en effet à 19h si on s'était pas inscrit. Que l'opération Grand Froid n'a pas été déclenchée parce qu'il y a des centres d'hébergement qui n'ont toujours pas été ouverts, qu'ils étaient 3 quarts du SAMU social, enfin 3 bus à se déplacer sur Paris, qu'ils étaient 5 à faire l'accueil du SAMU social. Donc imaginez les gens qui ont un petit élan d'humanité et qui dans une cabine téléphonique appellent le 115 pour pour aider un SDF qui voit en train de crever la gueule ouverte dans le caniveau. Il patiente 10 minutes au téléphone. Je suis sûre qu'une personne sur 3 ne patienterait pas 20 secondes. Ou 2 minutes. Et il raccrocherait. Alors voilà, moi, je sais pas.
Bah, nous non plus. Voilà, Amira. On sait pas non plus. Un petit élan d'humanité sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. Et puis d'autres messages, les petits bouts du monde, tels qu'il va aujourd'hui, la Saint-Valentin. Et puis évidemment, la grande manif de demain, Not in Our Name, pas en notre nom. Grande manif, vous le savez évidemment, demain à Paris à 14h, place d'Enfer Rochereau, mais partout en France. Chez vous, partout, j'ai une liste extraordinaire de tous les endroits où, je sais pas, je prends au hasard, Arles, ce sera à 10h30, place de la République, à Olonzac, ce sera à 15h, à la Bastide Murat, 15h face à la mairie, je prends vraiment au hasard, Sainte, 14 à 15h, forum pour la paix devant le palais de justice. La manif sera à 15h à Gap, 15h place de la République, enfin voilà. Grande manif demain contre la boucherie annoncée. Aujourd'hui, on retrouve Fatima et les siens, Fatima et sa et ses enfants, et son mari, l'histoire de cette famille maghrébine qui vous a ému et remué et à laquelle vous êtes hier identifié. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie.
Oui, bonjour Daniel, merci encore mille fois pour cette émission. Aujourd'hui, je viens d'écouter Fatima et c'est vraiment ma mère quoi. C'est exactement la même vie quoi. Je partais à 6 heures du matin aller nettoyer les cages d'escalier des bourgeois, etc. qui a travaillé pendant 40 ans de sa vie. Mon père, pareil, travaillait chez Rhône Poulain, qui lui a même laissé sa santé puisqu'il est mort d'avoir avalé toute cette merde quoi. Donc voilà, pareil, il a bossé 50 ans quoi, médaille du travail, etc. Et que je suis quand même content parce que on entend trop souvent les Arabes et tout le côté négatif, mais on oublie aussi qu'il y a eu des gens bien quoi, et qu'il y en a encore d'ailleurs, et qui ont bien élevé leurs enfants, qui ont essayé de bien les élever et qui ont tout fait pour, et voilà quoi, ça me réchauffe le cœur d'entendre ça. Merci beaucoup en tout cas.
Bonjour, moi je voudrais sauver le McDo de Trans-en-Provence parce que il va être pulvérisé soit par un Tomahawk, soit par un escadron des forces spéciales américaines. Je m'y suis arrêté tout à l'heure pour boire un coca, il passait de la musique arabe, puis ça a duré au moins 5 minutes, puis ça s'est arrêté, et après tu sais ce qu'ils ont passé? Ils ont passé Noir Désir, Le Vent l'emportera. Donc moi je dis qu'ils vont être pulvérisés dans pas longtemps quoi, il faut absolument le sauver. En plus c'est dans le sud-est, 70 bandes de Toulon. T'imagines, faut sauver ce McDo. Allez, ciao.
Lors d'une conversation anodine entre amis, j'apprends que dans un lycée du 15e arrondissement, des profs juifs trouvent depuis peu des propos antisémites écrits dans leur salle de classe. Alors je me demande quand est-ce que le prof homosexuel va trouver des inscriptions homophobes dans sa salle, le prof communiste, des inscriptions anticommunistes, et la liste pourrait être longue. En fait, je suis très ennuyée que les professeurs de ce lycée ne se soient pas mis en grève pour protester. Et je ne peux m'empêcher de penser que ceux qui agissent ainsi, et ceux qui laissent agir d'ailleurs, sont en train, sans s'en rendre compte peut-être, de donner de grands coups de boutoir dans eux-mêmes d'abord, mais aussi dans l'un des grands principes de notre école ouverte à tous, et gratuite. Enfin, ils portent atteinte à la démocratie. Je suis triste et inquiète. Il est temps de nous réveiller. Le rêve pourrait devenir cauchemar au XXIe siècle, comme pendant le XXe. L'histoire a-t-elle envie de se répéter?
Message d'un célibataire droitier qui s'adapte. Ce soir, ce sera resto, champagne et main gauche.
C'est dur aujourd'hui peut-être. Demain, demain, ça sera vachement mieux. Enfin, beaucoup mieux qu'aujourd'hui.
Tout à fait, merci Jaco.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Claire Auter, là-bas si j'y suis, la maison de Fatima.
Flight number 2, arriving from New York.
Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans nous. Et puis, on n'a pas envie qu'on fasse sans nous. C'est vrai? Ma vie était belle, mais en même temps difficile. J'ai presque 40 ans et je suis heureuse.
Maman, c'est mère courage. Elle, il n'y avait pas de distinction entre les filles et les garçons. C'était ses enfants avant tout. C'était une louve. Maman, c'était la louve.
Ma mère, elle est exceptionnelle, c'est clair. Mon père, c'est un sacré numéro.
Alhamdoulilah.
Ça, c'est mon père. Les deux, c'est les épaules, quoi. C'est les épaules.
Ma mère, c'est le pilier central, parce que s'il n'y avait pas ma mère... Ça me fait mal au cœur quand je vois des gens qui témoignent ou qui se ont un comportement assez agressif vis-à-vis des Maghrébins, vis-à-vis des musulmans, parce que c'est quand même ma mère qui lavait les cours de leurs immeubles. C'est ma mère qui désinfectait leurs toilettes. C'est ma mère qui faisait tout ça. Donc voilà, moi, ça me fait mal au cœur. J'en ai les boules.
Vous avez déjà compris, parce que ces voix, vous les connaissez, des personnes comme la mère de Jamila, et ben vous la connaissez, vous la croisez, c'est la femme du Maghreb, originaire du Maghreb, qui est maintenant un personnage omniprésent, partout on connaît ce personnage. Et pourtant, est-ce qu'on sait ce que ça représente de un parcours comme celui de Fatima? Qu'est-ce qu'il a fallu pour qu'on en arrive là aujourd'hui? Fatima, elle a 56 ans, elle est originaire de la région de Tlemcen, tout comme son mari, Mohamed, et qu'elle a épousé quand elle avait 17 ans, et puis il lui a fait 3 enfants. Et c'est d'abord Mohamed, c'est un parcours tout à fait classique, qui vient en France pour travailler. Et puis, comme nous a dit hier Fatima, comme il voulait pas rentrer au pays les mains vides, alors il y restait. Et donc, elle l'a rejoint. Et elle est venue s'installer avec lui en France. Et là, ça a été la galère. Et là, ça a été d'habiter dans un garage avec les enfants. Et puis, ça a été un boulot fou. Toute sa vie, Fatima a marné, a bossé, en faisant des ménages, des heures et des heures et des heures de ménage. Et peu à peu, petit à petit, sous à sous, elle a réussi à sortir, à s'arracher de la cité dortoir où la famille s'avait réussi auparavant à s'installer. Puis il y a eu le garage, et puis après, il y a eu la cité dortoir, le HLM. Et de là, la famille a réussi à s'acheter le pavillon en pierre Molière, et pas seulement les fondations en pierre Molière. Ça, les gens qui connaissent la banlieue savent ce dont je parle. Et ben c'est à Livry-Gargan aujourd'hui. Alors pourquoi aller voir Fatima et dans sa maison avec les siens, avec le mari, avec les enfants et même les petits-enfants, la petite fille qui chante la souris verte? Eh bien, c'est parce que récemment, on a fait avec Thierry Scharf une série sur l'islamisme et l'islamisation en France, et on s'est dit qu'on avait montré une partie importante et préoccupante aussi de cette intégration, je mets des guillemets énormes autour de ce mot-là, mais que ça représentait, c'était loin de représenter tous les aspects, toutes les facettes de cette, encore une fois, entre guillemets, intégration. Voilà la raison de notre balade aujourd'hui. Et ça a pas loupé, hein. Les auditeurs d'origine portugaise nous ont dit, mais c'est tout à fait ma mère, et d'autres pourraient le dire, je le disais hier, italien, arménien, que sais-je. J'ai oublié les vietnamiens, par exemple. On oublie toujours les vietnamiens. Mais c'est vrai aussi que c'est les mêmes parcours. Et plus on peut remonter, si on veut vraiment faire sonner quelque chose d'universel entre nous, et ben avant ça, il y a eu l'intégration intérieure, l'intégration de la France, et elle est toute récente, cette intégration. Il a fallu la boucherie et le bain de sang de la Première Guerre mondiale pour qu'il y ait une intégration française entre les Bretons et les Normands, les Picards et les Lorrains, les Alsaciens et les Savoyards, les gens, les Basques et les Provençaux. Ne croyez pas que ce mélange a été si facile qu'il paraît toujours aujourd'hui. On en a des expressions, des avatars encore avec l'identité bretonne ou basque ou corse, par exemple, qui s'exprime. Et c'est cette histoire lente de l'intégration. Je dis lente parce que c'est vrai que c'est lent et c'est vrai que c'est difficile. Plus difficile pour les uns que pour les autres, mais en tous les cas, ce qu'il y a de commun, c'est cette lenteur. Les politiques ont préféré, au milieu des années 70, mais jusqu'à aujourd'hui, exploiter le racisme rampant, ce que nous avons collectivement et individuellement de plus bas, c'est-à-dire le rejet, exploiter cela en supposant plus rentable ces politiques en matière de marketing politique. Mais un immigré, on oublie l'essentiel, c'est que c'est d'abord une richesse, c'est que c'est d'abord tout simplement une richesse, puisqu'il y a humain, puisqu'il y a humanité, il y a richesse, il y a promesse. Et c'est avec une idée comme celle-là que nous ouvrons la porte de la maison de Fatima aujourd'hui.
Je sais devant les portes d'entrée, pas n'importe lesquelles, surtout les bien gardées, avec 5 kilos de muscles à la clé. Devant trop de barbaques, c'est vrai je fais des rejets, mais je peux dire que je maîtrise le sujet. Les portes je connais, j'en ouvre tous les jours, mais j'en ai vu claquer plus souvent qu'à mon tour. Tiens, je vous fais un topo sur l'accueil entrée des boîtes.
Veuillez entrer monsieur, votre présence nous flatte.
Non, je plaisante car ça s'est pas passé ainsi. Devant les boîtes, moi je suis toujours à la merci d'un imbécile à qui je sers de cible et qui me dit
oui mais là je crois que ça va pas être possible.
Je crois que ça va pas être possible.
Non,
pas être
comme ça.
Possible
oui.
Je crois que ça va pas être possible.
Non,
pas être
non.
Possible
exact.
De résistance, comme tout un chacun, j'ai bossé pour ma pitance. Et histoire de vivre convenablement, je me suis mis à la recherche d'un appartement. J'ai bichonné un excellent curriculum vitae, couleur et Macintosh à toute qualité. En prime irréprochable, situation morale, et même quelques feuilles de salaire.
La totale.
Allez, vas-y, Diodo, fais-leur le proprio.
Oh, c'est un honneur pour moi, je vais vous montrer le patio.
Non, je plaisante car ça s'est pas passé ainsi. Quand il m'a vu, j'ai vu que tout s'est assombri. A-t-il senti que je ne lisais pas la Bible et il m'a dit:
ah oui, mais là je crois que ça va pas être possible.
Je crois que ça va pas être possible.
Mais non,
pas être.
Désolé.
Possible.
Comme ça.
Je crois que ça va pas être possible.
Va pas être.
Ne pas
possible.
Ne pas possible. Je crois que ça va pas être possible.
Non,
pas être.
Non,
possible. Je crois que ça va pas être possible.
Non,
pas être
non.
Possible.
Le samedi 15 février 2003, la fête de l'Aïd El-Kbir à l'espace européen avec Cheb Abdou, Mazouzi, Nani, Khalas, Mustafa Bilal Hadoud, Mousmaher, Cheb Benzina et en exclusivité en France, Cheb Bafati. La fête de l'Aïd El-Kbir, c'est le samedi 15 février 2003 à la Plaine Saint-Denis, métro Porte de la Chapelle au RER Stade de France.
Quand il s'agit de l'âme et du corps, nous sommes médiévaux et colonialistes. L'âme est en haut, le corps en bas. En amour, nous sommes tous albigeois. C'est sans doute pourquoi les hommes divisent instinctivement les femmes en deux catégories, les femmes comme il faut et les femmes comme il en faut, l'ange et la bête. Diviniser la femme ou la baisser, c'est toujours la tenir à distance. عزيزتي المستمعات عزائي المستمعين اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى عبر اثير اذاعه ميديتراني.
La Fatima Scarfou, on est où là?
Livré Gargan. On y va vers l'agence de mobilier que j'ai acheté ma maison.
Chaque fois que vous passez devant cette agence, ça vous fait un petit coup au cœur?
Oh oui, oui, ça fait chaud au cœur. Voilà, maintenant on prend le direction de Montfermeil.
C'est un retour en arrière qu'on fait?
Oui, un retour en arrière, oui. J'habite à Clichy, mais quand même, c'est Montfermeil.
Là, c'est l'entrée dans la cité?
Entre la cité de Montfermeil, Clichy, voilà, le bosquet, quoi. Il y a des femmes qui viennent de marcher, des enfants qui traînent à droite à gauche sans rien faire.
C'est un autre paysage.
Oui, un autre paysage, c'est vrai.
Moi, à chaque fois que je viens ici, j'ai un spleen. Enfin, on n'avait pas conscience qu'on était parqué. C'est vraiment ça. Alors, je vois qu'il n'y a plus mon école. On l'a rasée, elle n'existe plus. Là, on voit qu'il n'y a que des îlots d'immeubles, des îlots et des îlots, où l'ouverture vers l'autre et vers le monde extérieur se fait par les paraboles. Regardez, c'est tous comme des champignons. Il n'y a que ça. Comme si on voulait échapper à cette réalité en allant vers peut-être des chaînes étrangères.
Et là, à droite, alors il y a marché aujourd'hui.
C'est un marché local, c'est un des marchés où on peut trouver tous les produits selon son appartenance ethnique.
Il est immense, ce marché.
Voilà, il est immense.
Bon, on va se garer alors là.
Bah, on est ce soir. Voilà le bâtiment que j'habitais avant. C'est celle-là.
Ah oui.
C'est celle-là, voilà.
C'est un immeuble de 17 étages. La tour. Regardez cette dame, la voiture qui vient de s'éloigner. La dame, elle a son foulard. Bon, c'est une femme maghrébine de la soixantaine. C'est sa fille qui l'a conduit. Et moi, là, en fait, le grand bond en avant, c'est ma maman qui me conduit. Je n'ai jamais estimé qu'avoir son permis était un signe d'émancipation. Pour ma mère, oui. Donc ma maman me conduit. Je trouve que c'est un grand progrès.
Ouais. Parce que tellement que je suis ouvert avec le bus, le car, le métro, le froid, le matin, j'aime m'a poussé à passer mon permis.
À 50 ans, Fatima nous a dit qu'elle avait, comment elle avait passé son permis. Et là, avec l'une de ses filles, avec Jamila, et Claire Otter, elle retourne là où elle, la famille a vécu longtemps, dans cette cité des Bosquets à Montfermeil, non loin de la maison actuelle, ce pavillon que j'ai décrit tout à l'heure à Livry-Gargan. C'est une façon de revenir sur soi-même, sur le passé, mais c'est une façon aussi de regarder cette vie et cet endroit parqué, dit Jamila. Nous ignorions que nous étions parqués. Donc c'est un regard sur cette cité par ceux qui en sont sortis eux-mêmes.
Voilà le bâtiment que j'habite avant. Ça remplace à Boulevard Saint-Gélizy.
Elle est marrante. Ouais, on a grandi là.
Voilà.
Voilà les bâtiments, voilà.
Là, il y a les boîtes aux lettres.
Vous avez vu, bien brûlé, bien abîmé.
Voilà, c'est ma voisine. Ma voisine d'avant. Oui, voilà. Moi, je suis partie, mais elle est toujours là.
Vous voyez comment c'est la maison. Ah, oh, non, non. C'est trop ça, là. Ça fait 27 ans que je suis là. Regarde la misère. L'ascenseur en prend toujours. Ils n'arrangent pas. Ils font pas la peinture. C'est sale.
Tu payes loyer combien?
2700.
2700 par mois.
Combien de pièces?
F4.
Et c'est sale. Toujours les fenêtres. Il n'y a pas de chauffage. Il n'y a rien. Mais tout cassé, tout, ouais.
Là, il n'y a pas d'ascenseur?
Oui, il y en a. Mais
non, parce que les escaliers sont en ferraille.
En ferraille, voilà.
Bon, ça fait du bruit. En même temps, on a toujours des ascenseurs en panne. Les lumières, bon, ça saute, je ne sais pas d'où ça vient.
Toujours,
ouais.
C'est
insalubre. Hein. Ouais. Si vous voyez en haut, qu'est-ce que c'est? Ah ben, on va y aller justement.
Quand vous montez, vous trouvez déjà
la salle.
Les immigrés, comment ils vivent? Malheureusement, franchement, il vit mal. On est mal jugé.
Non, c'est pas ça.
C'est vrai, hein.
Oui, oui.
Les enfants d'immigrés, ils sont français. Oui. Ils n'ont pas le même droit comme les Français français.
Oui.
On souffre. C'est pour ça, regardez.
Maman.
Oui.
On y va ou pas?
Le monde, viens. Non, vous êtes.
Oh, maman,
c'est pas ça, porte la
surcharge
pondérale. Attends, 12 gouttes, d'accord?
Alors, il marche, cet ascenseur.
Oui,
comment
il
est. C'est plein de tags.
On
et c'est plein de...
On baise tous les PD en uniforme, donc on sait pertinemment qui sont ces PD en uniforme. On n'hésitera pas.
Mais non, mais regarde, tout le monde.
À mon époque, il n'y aurait jamais une telle expression.
Venez, on descend l'escalier.
On est au 12e étage? C'est là que vous habitiez?
Cette porte-là.
Cet appartement-là.
71, on habitait au 16e étage, on a habité jusqu'en 1981, et après de 80 à 85 ici.
On habite là, voilà. C'est la misère, franchement, je suis partie de la misère.
Est-ce que vous croyez qu'on peut sonner pour voir?
Ah oui, peut-être.
Bonjour monsieur.
En fait, nous, on a habité ici dans les années...
Voilà.
Vous vous rappelez?
Oui.
حالة تبدلت.
حالة تبدلت.
هدر لها هدر لها شوية هدر لها.
J'ai peur.
Oh là là, merde. C'est un monsieur algérien aussi?
Oui, c'est un algérien. Mais
si, je me rappelle de vous, il a dit. Alors là, on descend les escaliers et c'est vrai que c'est assez sordide.
Bah, c'est... Les fleurs ont pris sa forme, hein?
Les gens savent qu'ils vivent dans des conditions difficiles. Il y a une croix gammée dans l'escalier.
Ils expriment leur mécontentement, leur... Mais je pense pas que ce soit le nazi, hein. C'est qu'ils n'en connaissent même pas le sens exact. Ça ne veut pas dire qu'ils adhèrent à ce type de courant. Peut-être ils n'en connaissent même pas le contenu, je dirais, politique ni philosophique, mais ça relève de la provocation. C'est l'expression de la contestation d'un ordre établi, mais qui vous rejette.
Ils sont français, mais ils sont pas chez eux.
Regardez, Bico. Dans 80%, je pense, de la population qui réside dans cet immeuble est d'origine maghrébine. Donc il n'y a pas une connotation raciste, il y a une ignorance crasse.
Les enfants qui passent. Bonjour.
Bonjour.
Tu t'appelles comment?
Kevin.
Kevin, oui. Tu vas pas à l'école? Ah non, c'est mercredi. Tu vas pas au centre?
Non, je suis pas inscrit au centre.
Pourquoi?
Parce que...
Ta maman veut pas?
Non, parce qu'elle est partie au pays.
Ah bon, et tu restes avec qui?
Avec ma sœur et mon frère, mon grand frère.
Quand tu dis au pays, c'est où?
Haïti.
Ah, t'es haïtien?
Oui.
D'accord. Ben, sois sage, hein, fais pas de bêtises, hein.
Ok.
Ok, hein.
Oui.
Tu restes à la maison, tu écoutes ta sœur, hein.
Ok.
Allez, salut.
Salut.
Salut, Kevin.
Ça fait des porcheries, c'est pas une maison.
Pensez-vous, Claire, honnêtement, que des gens... que des Français pourraient supporter de vivre dans de telles conditions. C'est insoutenable.
Là, je vois dans l'escalier, il n'y a même plus de revêtement de sol, quoi. C'est non, du non. Béton, c'est pouilleux.
Mais leur vie est bétonnée, hein. Là, maman va avoir une... Maman, là, va frapper chez une voisine qui est là depuis 32 ans, 33.
Ah, elle est chacha?
Non, elle est pas là. Non, je suis sa nièce.
Ah, bah,
mais
tu es la fille de qui, toi?
Moi? Je suis la fille de sa tante. Je connais ta tante depuis au moins 33 ans, donc ah oui. Je connais un peu toute sa famille. Mais Rahma, bah tu vois, Rahma, je connais ta maman. Je l'ai connue jeune.
Ah ok, tu la connais.
Oui, je connais ta tante. Je savais pas qu'elle avait une si grande fille, tu vois. Bah ouais, au revoir, hein. Tu embrasseras ta tante.
Au revoir, merci.
Allez,
السنسور السنسور هذا يتمشى يدو فوا تروا فوا بار جور الكبير هذاك
دو فوا تروا فوا بار جور
il s'arrête 2 à 3 fois par jour, il est en panne. Donc vraiment, les conditions de vie sont terribles. Madame, elle dit, moi, je ne peux pas parler français, mais regardez comment on vit, dans quelles conditions. Regardez, témoignez de nos conditions de vie qui sont terribles. Comment peut-on penser son avenir dans de telles conditions? Comment penser son avenir? Là, on a tagué le futur dépend de nos actions. Mais comment agir lorsque tout est miné d'avance?
C'est vraiment un spectacle de désolation, hein, cet immeuble.
De désolation, puis je pense de désespoir écrit, hein. De désespoir tagué.
Pensez à quelque chose ou ne pensez à rien, cela m'est égal. Mais laissez flotter votre pensée sans effort.
Ouh, yeah! N'oublie jamais que les cités sont si sombres, car lorsque la nuit tombe et que les jeunes des quartiers n'ont jamais eu peur de la pénombre, profitant même d'elle telle, dehors la loi n'ayant pas d'autre choix que de développer une vie parallèle. Business illicite, la survie t'y invite, comme persuadé de prendre le chemin de la réussite. Mais pour ça qui fait quoi, quelle chance nous a donné l'État? Ne cherchez pas intentionnel et t'es cet attentat. Laisser l'abandon, une partie des jeunes de la nation ne sera pour la France qu'une la nouvelle amputation. Car quand la faute est faite, la fête est finie, finie. Fini de rire, pire, j'ai peur pour l'avenir. Mais toi qu'as-tu à dire pour contredire mes dires? Je n'invente rien, contrairement à ce que tu peux lire. Pas de brodage dans mes textes, pas de romance, car je sais que notre pensée peut avoir de l'influence. Quelle solution préconise-t-on? Mieux vaut prévenir que de guérir, dit le dicton. Mais dans ce cas précis, si guérison il y a, souvenez-vous que c'est à nos frais que seront les dégâts.
Va y avoir des gros dégâts en liste. J'en étais pas conscient. Va y avoir des gros dégâts en 10. J'en étais pas conscient. Va y avoir des gros dégâts en 10. J'en étais pas conscient. Va y avoir des gros dégâts en 10. J'en étais j'en étais pas conscient.
Trop longtemps plongé dans le noir à l'écart des lumières et des phares, éclairé par l'obscur, tardé de l'espoir. Les enfants, les cibles ont perdu le contact, refus de pelle, pas de trop sanguine, n'en sortiront pas intact. De vivre libre, aspirer au bonheur, se donner les moyens de sortir du tunnel pour voir la lueur et pour voir tapisser de fleurs les murs de l'amour. Voilà ce qu'on reproche à mes proches à ce jour, sans pour autant essayer de comprendre le pourquoi, le comment, et préférant se baser sur des préjugés pour porter un jugement. À la hâte dans le vent, non, non, laisse filément. Un monde nous sépare alors, foutez-moi le camp. C'est clair, je pense, vous avez saisi la sentence. La France est accusée de non-assistance. Sa personne en danger, coupable, crie les cités, mais l'État, malgré ça, nous fera payer les dégâts.
Il en va l'intégration comme de nombreux d'objets sociaux et surtout d'états mentaux où l'on se met à vouloir ce qui ne peut être voulu selon la belle formule d'Elster. C'est comme de vouloir oublier. Il suffit de vouloir oublier pour ne pas oublier. L'intégration derrière laquelle on court a pour caractéristique de ne pouvoir se réaliser que comme effet secondaire d'actions entreprises à d'autres fins. Ainsi écrivait Ahmed Sayad, ce sociologue qui a beaucoup réfléchi sur l'intégration. Et on connaît les deux pôles qui bornent le champ de problème de l'intégration, c'est l'assimilation, c'est-à-dire se dissoudre dans les autres, on pourrait presque dire, ou bien alors s'enfermer dans un communautarisme sur soi-même, entièrement occupé à défendre exclusivement les intérêts de la communauté. C'est entre ces deux écueils, en somme, qu'avance celui qui s'intègre sans savoir qu'il s'intègre, et plus il cherchera à s'intégrer, moins il parviendra. On décide pas tout à fait. L'intégration, elle se fait par la drague, elle se fait au bistrot du coin, elle se fait par le sport, et puis avec le temps, avec le temps. Et là, c'est difficile, évidemment, on le sait, quand on voit le cadre. Ce cadre de vie, il y a plus de bidonvilles en France, mais ils sont dans des HLM maintenant. C'est des bidonvilles déguisés dans lesquels stagnent ces familles depuis si longtemps, plus de 30 ans. On vient de le voir encore une fois. En tout cas, Fatima, elle n'a pas oublié, puisqu'elle revient là où elle a vécu si longtemps. On revient voir ses voisines avec sa fille Jamila. Et maintenant, on rentre à la maison de Fatima, dont elle est si fière, et ses enfants avec, et son mari avec, ils ont bien raison, donc à Livry-Gargan, et on va donc discuter plus avec Jamila, donc l'une des filles. Je rappelle un peu rapidement la composition de la famille. Donc Fatima, 56 ans, Mohamed, le papa, les enfants, Hashmi, avec qui on a fait connaissance hier, Jamila, avec qui on va parler maintenant, Fadila, Kera, trois enfants en tout, et puis les petits-enfants. Voilà le portrait de la famille. Et maintenant, nous sommes dans la maison de Fatima avec donc Jamila.
Vous partez avec quel sentiment, Fatima?
Franchement, je suis triste. La vérité, je suis triste. Que je vois comme ça les gens, je suis triste. Parce qu'ils n'ont pas le moyen. Ils sont comme des... comme un oiseau qui n'a pas de zèle, pas de moyens pour partir, donc dans le malheur. Moi, j'ai vu les femmes qui ne travaillent pas, qui vont au marché, qui voient les choses avec l'œil, c'est tout, ils ne savent pas. Tellement qu'elles n'ont pas de moyens.
On descend par là?
Oui.
Disons qu'il faut être très courageux. Hein,
voilà, c'est ça. Rester... il faut le courage. Moi, je me rappelle l'année que je suis partie chercher le travail, j'ai été l'agent de l'emploi. Et l'homme qui m'a reçu m'a dit: vous avez avec les gosses, vous travaillez? Je lui ai dit: écoutez, monsieur, donne-moi le travail et moi, je te donne le résultat. Et c'est vrai.
08-19. Que ce soit les études de vos enfants, l'amour, le travail, le commerce, la famille, professeur El Hadj Mamba, métro Porte de Clichy.
un personnage qui est apparu dans la, on pourrait dire sur la scène sociale du pays, après la figure de Fatima, la maman qui a fait le ménage pendant je ne sais combien d'années, c'est la beurette, hein, c'est la jeune femme issue de la deuxième génération, et dans laquelle on a tout vu, on a tout mis, tous les espoirs, tous les héroïsmes, et aussi tous les rejets, bien évidemment. Et Djamila, bah, elle est une figure de cette, mais de ce qui quand même est assez caricatural. C'est pour ça qu'on va passer un peu de temps avec elle, à travers elle, son regard, et ce parcours, cette séquence de parcours qu'elle représente dans l'histoire de cette famille partie de Tlemcen, de la région de Tlemcen, d'un village il y a pas si longtemps, après tout quoi, c'était dans le courant des années 60, c'est pas sur le temps long des hommes, c'est peu de choses, pour aujourd'hui être là et parler comme elle le fait, avec le regard qu'elle a sur son histoire propre et puis sur nous tous.
Bon, Djamila, je te suis.
On va monter, en fait, au dernier étage. Ce sont les cons qui sont aménagés, en fait. Et ça, c'est l'espace du petit dernier. Celui d'il y a 22 ans. Non, 23. Là, c'est l'espace de Jalil.
Je m'appelle Djamila. J'ai 39 ans. Je suis enseignante spécialisée, en fait. C'est-à-dire que je m'occupe d'enfants placés par décision judiciaire. Puis d'autres, également, sont placés pour des raisons de destruction de la cellule familiale et affective. Jusqu'à l'âge de 7 ans, hein, je ne parlais qu'arabe. Et le français, c'est une langue que j'ai apprise à l'école. Je l'ai appris grâce au système éducatif français, grâce à Jules Ferry. Lorsqu'il a fallu s'adresser aux administrations, j'accompagnais maman, qui à l'époque ne parlait que l'arabe, et donc je servais de traducteur déjà petite, et presque à la limite écrivain public après, vers l'âge de 10-12 ans, pour les gens issus de ma communauté, qui avait des problèmes avec l'administration. Parce qu'en fait, l'immigration n'a de contact avec la France qu'à travers ses administrations. On va à la CAF, les allocations familiales, voir l'assistante sociale, voir la mairie. Mais on n'avait pas de lien, je dirais, amicaux avec des familles françaises. Non. Lorsqu'on est arrivé dans cette cité dortoir, il y avait quelques familles françaises, mais c'était l'équivalent des familles groseilles. Donc il y avait quand même un problème avec l'alcool, un problème avec beaucoup de problèmes. Ils avaient nos problèmes. Je veux dire, on est appartenant à une même catégorie sociale, mais leurs problèmes étaient, je dirais, exacerbés par le fait qu'il n'y avait pas de solidarité, je dirais, et il fallait en aucun cas leur ressembler. C'est dans ce sens-là. Je parle pour mes parents, le seul exemple de famille française qu'ils pouvaient avoir, c'était des contre-exemples. Et en grandissant, on avait beau leur dire, mais la France, elle est plurielle, comme l'immigration est plurielle. Ben non, ils étaient complètement traumatisés, hein, traumatisés par ces familles. Et c'était pas du racisme, c'était, il ne fallait pas qu'on s'aliène. On avait une identité, il fallait la conserver. Ils avaient un discours, je dirais, presque politique. Il fallait apprendre, ils avaient compris.
Allahu Akbar. Allahu Ahad. Allahu Samad. Al-Miyalid wa al-Miyulid wa al-Miyakul Kubu al-Nahad. Allahu Akbar.
J'ai pas fait des études dans une optique d'ascension sociale. On réfléchissait pas ainsi à l'époque. Je veux dire, pour mes parents, c'était pas l'objectif de l'ascension sociale. C'est que j'allais à l'école, il fallait que j'apprenne le français. Après, bon, ma mère me disait tout le temps, bon, bah, il faut que tu t'accroches, il faut que tu termines tes études, il faut aller à l'université. Et après, ben, une orientation vers des études d'économie. Pourquoi l'économie? Ben, je voulais comprendre pourquoi qu'on était si pauvres. Parce que, pourquoi que mes parents étaient dans une situation, quand je dis pauvre, non, de conditions si modestes, qu'est-ce qui expliquait qu'on était dans une telle situation? Donc, j'avais opté pour des études, je dirais, je qualifierais de bourgeoise. Donc là, j'ai quand même connu un autre cran, des gens qui n'avaient vraiment pas conscience de ce que pouvait être une enfant issue de l'immigration. Mais c'était pas grave, je parlais bien, j'étais bien éduquée, un français, je dirais, châtié. Donc j'ai eu mon doc tranquillement, ma licence tranquillement, ma maîtrise, il a fallu que je travaille parce que toutes mes études, je n'avais que 10 francs en poche, et parce qu'il fallait attendre la bourse, parce qu'il fallait faire les petits boulots. En fait, pendant 4 ou 5 ans, j'ai omis ma réalité sociale, quoi. Elle m'est tombée dessus lorsqu'il a fallu chercher du travail. Là, c'était une autre paire de manches. Ben, on a été confronté à la discrimination. Je veux dire, à diplôme égal, lorsqu'on est issu de l'immigration, on peut pas prétendre à des postes de décision, même si vos résultats étaient assez probants, de qualité. Non. Donc, je me suis retrouvée à chercher du travail et je n'ai jamais voulu effectuer des boulots, je veux dire, un travail qui n'était pas en relation avec mes compétences. Donc, j'ai préféré être RMiste et faire des ménages et des cours particuliers plutôt que d'accepter un travail plutôt qui n'était pas en valeur avec mes diplômes. Donc, je me suis orientée, je dirais, vers les gens qui ont un handicap social, les populations dont je m'occupe. Ben, finalement, c'est parce que j'avais un handicap à la fois ethnique et social. Mais je suis passée de l'autre côté. Voilà. Mais ce fut un combat de longue haleine.
Tous les matins, du lundi au samedi, de 10h à 11h, passez vos annonces sur Beurre FM en appelant le 08 92 68 10 65.
On marque une page de réclame, on va revenir avec ça.
Mais papa, maman, est-ce que nous pouvons avoir un mouton comme nous ?
Subhanallah, c'est vrai mon fils. Il y a tellement de pauvres qui vont être tristes.
On peut leur acheter un mouton peut-être ?
Allons au secours islamique, on va leur offrir un sacrifice, comme ça même les pauvres feront la fête. Tu sais mon fils, le prophète a dit, l'homme n'accomplit pas une action plus agréable à Dieu le jour de l'Aïd que celle d'offrir un sacrifice.
Lorsque j'étais étudiante à l'université, c'était pas une honte de mon milieu social, mais je ne voulais pas qu'on aborde mon milieu. Je voulais qu'on me reconnaisse à travers mes compétences intellectuelles. Donc je faisais mes études, j'étais élégante parce que je faisais des petits boulots, puis j'avais une amie chez qui je faisais des ménages et qui m'offrait des choses. Elle me dit « c'est pour toi, Jamila ». Puis elle était fière de mon parcours parce que ma maman faisait des ménages chez elle et elle me disait « tu vois, ta mère fait des ménages, moi je suis chef d'entreprise, ma fille n'a pas eu le bac ». J'acceptais parce que je considérais pas ça comme une atteinte à ma dignité. J'étais pas la petite soubrette qui faisait le ménage. Mais une jeune femme avec qui, une jeune étudiante avec qui elle aimait converser. Je n'ai jamais, pendant mes études, invité des amis chez moi. Je ne recevais pas, je les voyais à l'extérieur, mais je ne recevais pas les gens chez moi. J'avais fait une dichotomie entre ma vie, je dirais, familiale, ma réalité sociale, et ce que je vivais en tant qu'étudiante.
Aujourd'hui, si t'étais pas justement Jamila, issue de l'immigration, comme tu dis, quel poste tu aurais à ton avis ?
Ah ben, disons que j'aurais un poste de décision dans une banque, oui, parce que je m'étais spécialisée en politique monétaire. Si je ne m'appelais pas Jamila X ou Y, j'aurais un poste de décision, puisqu'à diplôme égal, des relations d'université ont des postes de décision. Aujourd'hui, il y a encore un climat néocolonial. On n'est pas prêt d'octroyer des postes de décision à des enfants issus d'immigration. Mais il y a quand même des gens qui ont fait des efforts, qui ont cru au système éducatif, qui ont cru, en fait, au principe égalité-fraternité. Aujourd'hui, ceux qui ont pu effectuer des études dans des professions dites libérales, sont avocats, certains sont dans la magistrature, mais on reste quand même des éléments marginaux, des éléments résiduels. Et j'ai refusé d'être française chez moi, mes frères et sœurs sont français. Parce qu'un jour, je lisais un texte de Gilles Deleuze et il disait « Mais qui voudrait s'intégrer dans une telle société ?» Je veux dire, il y a des incohérences. Et lorsqu'on est conscient de ces incohérences, j'avais pas envie de participer en tant qu'électeur. Voilà. Je voulais juste être spectatrice. Mais je ne voulais pas avoir un acte civique en tant que citoyen français. Non, je ne vote pas. Je suis restée algérienne par choix. Parce que je me rappelle avoir eu 20 ans un jour et puis je suis allée... récupérer un dossier à la sous-préfecture, il fallait se lever à 4h du matin, il y avait une queue pas possible devant moi. Et on recevait à l'époque l'immigration comme si on était la lie de l'humanité. Et donc je me dis, le jour où on appréhendra les êtres selon le critère de dignité humaine, donc ce jour-là je reviendrai. Maman, elle a été lumière. En fait, c'était drôle. Nous habitions une cité dortoir, mais nous ne fréquentions pas la cité dortoir. Et elle nous a vraiment, je dirais, un comportement de louve. Elle a été herculienne pour ne pas laisser, en fait, l'environnement nous absorber, nous prendre, nous voler à elle. Elle a été un rempart. parce que j'étais lycéenne, j'enjambais le toxicomane pour aller au lycée. Il m'est arrivé de rentrer et trouver les CRS qui avaient encerclé l'immeuble parce que il y avait un trafic de drogue. Et c'était ça notre réalité en fait. Hein. À un moment, c'était ça la réalité, c'est que un toxicomane relevait de la banalité dans une cité. Un toxicomane faisait partie du décor. Et moi, j'ai eu des amis d'enfance qui sont morts du sida, qu'on a enterré, je veux dire, au pays. C'était ce retour dans une petite boîte. Les parents, ne sachant pas de quoi leurs enfants étaient morts, disent « Ah, il est mort, il a eu un cancer ». C'est comme si on voulait réfuter l'échec d'être venu ici. J'ai assisté à des veillées portuaires où les pères disaient « La France m'a tout pris, m'a pris mes enfants, m'a tout pris ». Jusqu'à l'âge de 13-14 ans, je pensais que tout le monde vivait comme nous. Tout le monde vivait dans des immeubles. Bon, on voyait bien sûr des pavillons, mais on pensait que tout le monde avait la même réalité. C'est après que le choc, et le choc, c'est lorsque vous enjambez vos camarades pour aller, vous, au lycée, et eux ont été exclus du système scolaire. Alors là, ma mère a eu très peur. Elle m'a dit, je ne veux pas emmener mes enfants dans des boîtes. Elle voyait ces femmes qui en silence, ou qui chuchotaient qu'elles avaient un fils qui était malade. Pour certains, il était habité par le djinn, hein, par des esprits malfaisants. En fait, le fils, il se droguait dans la cave. Genre, on parle de tournantes, mais les caves, ça existait. Mais on ne médiatisait pas. C'était pas un sujet à la mode. C'était pas un sujet à la mode. En fait, à l'époque, il n'y avait pas une préoccupation politique des gens issus d'immigration. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, je pense que les jeunes issus d'immigration ne votaient pas encore. Aujourd'hui, ils votent. Mais on n'était pas une préoccupation politique. Aujourd'hui, il faut résoudre le problème. Hein. Il faut le résoudre.
Je fermais les yeux, écoutais mes habits, me parlais tendrement des montagnes de Kabylie et mes petits doigts de Gaouri et me réchauffer la peau des Derbouka de Tunisie. Quand je suis né, on m'a pas dit le saucisson, c'est pas ton ami, mais j'ai toujours aimé danser sur les musiques Didier et de chez mamie. Baradija, la princesse d'en bas de chez moi. Chez Baradija, on se mariera tous les deux, Inch'Allah. Même s'ils ne veulent pas, ma petite chez Baradija. Sache qu'au fond de mon cœur, je t'ai réservé une casbah. Même s'ils ne veulent pas, on se mariera en Chedka. Chez Baradija, écoute ma petite Renéa. Bon d'accord, chez Baradija, quand j'étais petit j'allais pas au cours d'arabe avec toi, mais j'ai gagné tous les concours pour toi, de mangeur de makhrout et de bagrawa. Dans mon village il n'y a pas de Marie-Madeleine qui vont tous les matins chercher de l'eau à la fontaine. J'aime la musique des prénoms qui finissent en asma la musica. Tout est petit Radija, quand je suis né on m'a pas dit le saucisson, c'est pas ton ami, mais j'ai toujours aimé danser sur les musiques Didier de chez mamie. Quand je suis né on m'a pas dit c'était des tirabas, c'était vacances au pays. Et j'ai toujours aimé danser sur les airs de Matoub et de Chevrasny.
Une seule fois, mon père a décidé que nous, les filles, étant pubères, nous n'avions plus accès à la scolarité, à la connaissance, à la culture, à tout. Il ne fallait plus apparaître en société. Donc moi, je le comprends. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'on vivait quand même en Occident. En Algérie, déjà, les femmes sont assez... elles évoluent avec leur temps et avec leur combat. Les filles pouvaient s'exprimer. Alors que nous, on n'avait plus le droit d'expression. Donc moi, j'ai juré que je continuerais à aller à l'école. Et j'ai attendu qu'ils sortent. Et je l'ai suivi. Je suis partie à l'école et quand je suis revenue, je me suis mangé une grosse baffe. Mais c'était la seule et unique fois qu'il me frappait. Il m'a jamais frappé, mon père.
Ça, c'est Kéra qui parle. C'est l'autre sœur. Et oui, c'est pas tout rose, hein. C'est pas la petite maison dans la prairie, quand même, la maison de Fatima. C'est une histoire, et c'est pas une histoire facile que celle de l'immigration. Ni citoyen, ni étranger, ni vraiment du côté du même, ni totalement du côté de l'autre. Il se situe en ce lieu bâtard, frontière de l'être et du non-être social, ainsi écrivait Pierre Bourdieu dans la préface à la double absence de d'Abdelmalek Sayad, dont je parlais à l'instant. On aurait envie que tout se passe comme ça, formidablement. La culpabilité n'y serait pas étrangère à cette envie, et puis aussi l'idée de vouloir habiter, être les citoyens d'un pays qui serait, par exemple, le pays qui aurait inventé le droit d'asile. Par exemple, ce serait possible qu'on soit fier de ça au lieu de politiques qui font de nous des gens de peu de générosité et qui nous mettent en doute sur nos capacités à accueillir l'autre. C'est question délicate, question d'horlogerie à la fois humaine et sociale. Donc, on va finir cette histoire avec Kéra, l'une des filles de Fatma.
En fait, mon père souffrait. Il souffrait sa condition. Et il avait l'alcool mauvais. C'est tout. Et moi, j'ai commencé à supporter sa violence physique parce que je m'interposais. Je ne voulais pas qu'il touche ma mère. Je ne voulais pas. Aujourd'hui, avec le temps, j'ai appris à lui pardonner parce que j'ai compris. La première fois que j'avais lu La plus haute des solitudes de Tahar Ben Jelloun, j'ai pleuré. Je pleurais parce que je me dis, mais zut, en fait, je n'ai jamais parlé à mon père et ce qu'il a dû vivre, c'est ce qu'ont vécu ces hommes. C'est ce que c'est que l'exil, la douleur de l'exil et ne pas avoir de choix. Ne pas avoir de choix. Il m'a aidée à être forte.
Mais aussi en te tapant dessus.
Ouais. Parce que pour moi, c'est qu'en fait le coup, c'était pas Djamila qui tapait, c'est Djamila qui s'interposait. On a morflé, bien sûr qu'on a morflé physiquement, parce que il était d'une violence qui est indicible. Hein. Je dis qu'un tsaibauzin, ma vie était belle, mais en même temps difficile.
Ça, c'est toujours du passé.
Que dire de maintenant? عندي قريب 40 عام وهاني فرحانة. J'ai presque 40 ans et je suis heureuse. Moi, je vais à l'essentiel. J'ai appris à aller à l'essentiel. Et je pense que les femmes sont fortes. L'élément déterminant de cette famille, ce fut une femme. Dans l'appréhension qu'on peut avoir de la femme maghrébine, on a souvent le sentiment qu'elles sont soumises, effacées. En fait, elles sont les décideurs du foyer. Je veux dire, on est passé d'un... Il faut le dire, c'est la laideur, les cités et la laideur, c'est de la laideur. Et on pense que certaines tranches de la population n'ont droit qu'à la laideur. Et ma mère voulait quelque chose de beau pour nous.
Merci à tous, merci à Fatima, merci à Mohamed, merci à Djamila, merci à Kéra, Ashmi, Fadila et Jalil. Le livre que j'ai évoqué, c'est « La double absence », Abdelmalek Sayad, c'est au Seuil, un reportage de Claire Otter, donc aujourd'hui, technique Eric Audra et Jean-Philippe Jeanne, assistante Joël Levert. Le répondeur, c'est Christophe Imbert qui en a la charge, et le numéro, c'est 01 56 40 37 37. C'est Koy Nguyen, assistant de réalisation, qui s'est occupé des musiques et des choix musicaux, et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Et je vous rappelle, demain évidemment, manif, grande manif à Paris, vous le savez, à 14h, place d'Enfer-Rochereau, et dans plein d'endroits en France, y compris jusqu'à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, à 10h, meeting à la Mutualité, puis manif à midi à La Réunion. La Saint-Denis de La Réunion, c'est à 14h, départ du Jardin de l'État. Je prends des endroits au hasard, à Draguignan, c'est à 17h devant la sous-préfecture, et à Altkirch, dans le 68, c'est à 14h devant le Monument aux Morts. Il est 18h sur France Inter. On se retrouve donc lundi à 17h pour la base si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour le journal avec Delphine Simon. Salut!